49.
Et bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 7 janvier. Bonjour Anaïs Feugard.
Bonjour Nicolas. Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, un niveau jamais atteint. 200 000 nouveaux cas quotidiens de Covid en moyenne. Le contact tracing de l'assurance maladie a du mal à suivre. Le protocole dans les écoles à nouveau rectifié. On voit tout ça en détail avec vous, Anaïs, dès le début du journal, après les autres titres.
Déjà 7 accidents du travail mortels depuis le début de l'année en France. Sur Twitter, un fil dédié leur rend hommage. La campagne présidentielle, France Inter lance son baromètre Internet. Éric Zemmour, le plus actif sur les réseaux sociaux au mois de décembre. Et puis, un faux James Bond sur des notes chinoises, l'arme de l'ironie de Pékin contre le Royaume-Uni.
Invité, rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, le débat éco, Thomas Piketty et Dominique Seux. Autour de cette première dans l'histoire boursière, Apple, qui dépasse la barre des 3000 milliards de dollars à Wall Street. À 8h20, dans un autre genre, le grand entretien de la matinale avec le sociologue et anthropologue des sciences, Bruno Latour. Il publie avec Nicolas Schulz, mémo sur la nouvelle classe écologique. Comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d'elle-même? C'est aux éditions La Découverte, Les Empêcheurs de penser en rond. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. C'est une réalité derrière le vertige des chiffres. Pour la première fois, le cap des 200 000 nouvelles contaminations quotidiennes en moyenne sur une semaine dépassé hier, l'équivalent presque d'une ville comme Rennes. Il y a 8 jours seulement, on était à 100 000 cas quotidiens moyens. Autant dire que même avec un fonctionnement revu pour éviter d'être submergé, la CPAM a du mal à suivre pour assurer le contact tracing, cette stratégie gouvernementale du tester, tracer, isoler. Anne Rothstein.
Impossible d'appeler tous les cas positifs. Les 6000 agents de la brigade Covid ont donc désormais pour consigne de prioriser les assurés qui n'ont pas de téléphone portable. Les autres n'auront droit qu'à un SMS, mais tout de même personnalisé. Une adaptation nécessaire, selon Thomas Fatom, directeur général de l'assurance maladie.
La priorité, c'est d'aller vite dans l'information qu'on donne. On est sur des tels volumes qu'il faudrait recruter des dizaines de milliers de personnes pour appeler, ce qui honnêtement n'a pas beaucoup de sens. Et je crois aussi que toute la communication qui est faite permet maintenant aux gens de mieux se repérer, de mieux comprendre les consignes.
Les agents se doivent d'être plus efficaces face à des interlocuteurs toujours mieux informés. Mais cette efficacité a un prix, dénoncent les syndicats. La cadence est tellement élevée que les agents n'en peuvent plus, s'insurge Benjamin Sablier. Il est délégué CGT de l'assurance maladie dans les Bouches-du-Rhône.
C'est difficile. Hein. Moi, j'ai pu assister à des scènes d'agents vraiment en détresse, quoi, en difficulté. Avec un nombre d'appels énorme à passer, une pression au travail qui est quand même conséquente. Donc oui, il y a de la détresse, de la souffrance au travail.
Et de s'interroger sur la pertinence même du système du contact tracing.
C'est notre mission de service public.
Leur répond le directeur de l'assurance maladie qui compte néanmoins sur le principe de responsabilité de chacun.
Anne Rothstein, au milieu de cette vague, l'école essaie de surnager 9200 classes fermées moins d'une semaine après la reprise des cours, 3 fois plus qu'avant les vacances. 20 écoles, 6 collèges, 2 lycées sont complètement fermés en France. Et après la réunion d'hier avec les syndicats d'enseignants, le gouvernement vient de retoucher le protocole sanitaire. Les précisions avec Laurence Méride.
Désormais, le parcours de dépistage des élèves sera valable 7 jours. C'est-à-dire que si un élève est négatif le jour de l'apparition d'un cas dans sa classe, puis positif à J+2 ou J+4, on ne redémarre pas un cycle de dépistage pour les autres élèves. On ne repart pas du jour zéro, même si de nouveaux cas positifs sont détectés dans la classe dans les jours qui suivent. Et c'est seulement si un nouveau cas est détecté une semaine après l'apparition du premier, que recommence le mécanisme des 3 tests à effectuer en 5 jours. Pour les syndicats, il s'agit d'un protocole affiné, plus précis, plutôt qu'allégé. Ce changement ne satisfait d'ailleurs toujours pas Guylaine David du SNU-IPP. Les parents vont vite lâcher l'affaire, selon elle, et signer les attestations sur l'honneur sans réaliser les autotests à J+2 et J+4. Un système donc avec de multiples trous dans la raquette, estime la représentante syndicale.
Et concernant encore les enfants et la vaccination des 5-11 ans, il faudra désormais l'accord des 2 parents et non d'un seul. Le ministère de la Santé se plie ainsi aux demandes du Conseil d'État. Le football, lui, craint de revivre les annulations en cascade d'il y a un an. Une 2e rencontre de Ligue 1 ce week-end reportée. Lille-Lorient, après Angers-Saint-Etienne. Trop de cas de Covid dans les effectifs. Le sport, globalement, doit s'organiser avec les jauges revues à la baisse alors que les billets avaient déjà été vendus. 5000 spectateurs maximum en extérieur. Il faut donc donc choisir ses supporters pour la plupart des clubs à Adel Belhoumri. Priorité aux abonnés.
Pour le club athlétique de Brive, le match contre l'Union Bordeaux-Bègles, leader du top 14, est un match de gala. On s'attendait à 12 000 spectateurs, mais place uniquement aux abonnés. Xavier Ric, le directeur général du CA Brive.
Nous, on est aux alentours de 6 000 abonnés. Grâce à des discussions avec soit les collectivités ou soit des partenaires, on a réussi à satisfaire l'ensemble de nos abonnés grand public et à baisser pour arriver à la jauge de 5 000 personnes.
Les abonnés seront répartis dans toutes les tribunes du stade avec un siège d'écart entre chacun. Ce sera pareil au stade toulousain qui reçoit Montpellier. Là-bas, le tri s'est fait via un questionnaire et les 3 000 premières réponses ont été privilégiées. 1 400 abonnés seront donc absents, mais avec un avoir pour compenser. En intérieur, il faut encore plus serrer la vis, 2 000 personnes maximum. À Metz, priorité aux 1 600 abonnés pour supporter les handballeuses premières du championnat français. Seulement quelques places à vendre, une vraie déception pour le président du Metz Handball, Thierry Weissmann.
En Champions League, on fait généralement 5 000 spectateurs. On a un match contre une équipe turque ce dimanche qui se profile. C'est un manque à gagner énorme. On va dire que c'est une recette qui va être à peu près de 40% par rapport à d'habitude.
Et ce n'est pas les buvettes qui vont compenser le manque à gagner. Elles sont fermées jusqu'à nouvel ordre.
Adel Belhoumri à l'étranger. Examen en urgence aujourd'hui par la Cour suprême américaine de l'obligation vaccinale pour les employés des entreprises de plus de 100 salariés. 80 millions de personnes concernées. Obligation décidée par le président américain après avoir tenté de convaincre les récalcitrants à la vaccination.
Il est 7h07, les grands travaux autour de Paris. Dans la perspective des JO, Anaïs, endeuillée cette semaine par la mort d'un ouvrier.
Un homme qui travaillait pour la société Eiffage sur le chantier du Grand Paris Express est décédé mercredi. Depuis le début de l'année, 7 accidents du travail mortels ont déjà été recensés dans toute la France. Et ces statistiques sont tenues par un enseignant en histoire-géographie. Il recense depuis 2016 les accidents du travail sur un fil Twitter dédié et l'a raconté à Béatrice Duguay.
Le compte créé par Mathieu Lépine s'appelle « Accident du travail, silence, des ouvriers meurent ». Lui qui vit en Seine-Saint-Denis voit les chantiers d'infrastructures immobilières pousser sous ses yeux comme des champignons et il constate que les accidents s'y multiplient.
L'accident du travail arrive en bout de sous-traitance et touche souvent les travailleurs qui sont les plus précaires, les moins expérimentés, à qui on fait faire les tâches les plus complexes. Je vois revenir beaucoup des intérimaires notamment.
Mais Mathieu Lépine ne se soucie pas seulement des ouvriers du bâtiment. Routiers, morts au volant, sapeurs-pompiers en service, marins-pêcheurs disparus en mer, fonctionnaires suicidés, livreurs en deux roues renversés. Son triste décompte vise à rendre visibles tous ces travailleurs.
On a rarement des informations sur l'identité de ces gens et donc dès que je peux le faire, j'en parle. Là, tout dernièrement, par exemple, j'ai été en contact avec la femme d'un ouvrier décédé en 2019 sur un chantier du BTP en Normandie. Il s'appelait Youssel Moutlou. J'ai fait un portrait justement de ce travailleur-là décédé après avoir été contacté par sa femme.
Mathieu Lépine déplore le manque de moyens des inspecteurs du travail. Il renseigne parfois des avocats, il soutient les familles, il éveille quelques consciences. Sans illusion.
On voit l'évolution du monde du travail avec l'uberisation à tout craint dans tous les corps de métier. J'ai pas l'impression que les choses bougent sur la question des accidents du travail.
De fait, leur nombre ne baisse plus depuis une dizaine d'années.
Et on a compté en 2020 540 000 accidents du travail, dont 550 mortels. Le gouvernement a présenté des mesures fin décembre pour concentrer les efforts sur les travailleurs vulnérables, en particulier les jeunes inexpérimentés. À 11h ce matin, les commémorations des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher sur les lieux des tueries. Il y a 7 ans, jour pour jour, la rédaction du journal était décimée, 12 morts. L'urgentiste Patrick Peloux, ami des victimes, était arrivé tôt sur les lieux. Il ne participera pas, lui, à l'hommage officiel. Depuis 2 ans, il a son rituel à lui.
Je vais sur les tombes de mes amis. Je vais à Pontoise, sur celle de Charbes, et je bois du champagne comme ça, parce que rien n'est trop beau pour la commémoration. Et puis après, je vais sur la tombe de Volinsky et d'Elsa Kayat au cimetière de Montparnasse. Et puis après, sur celle de Mustapha Ourad, Honoré et Tignous au Père Lachaise. Ça me permet d'être avec eux, de raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Et voilà, et me rappeler, j'ai l'impression d'être plus proche d'eux et d'être plus en adéquation avec ce que j'ai vécu avec eux. Ma vie a totalement changé depuis l'attentat et ils sont tous les jours là, vous savez. Et puis une semaine avant les commémorations, vous vous avez des cauchemars qui reviennent. C'est ça ma triste réalité. Il nous manque, hein. Il me manque pas qu'à moi, hein. Il manque à tout le monde. Il manque au peuple français. Et c'est quelque chose qui marque encore la nation et le peuple de France.
Patrick Pelot qui répondait à Cyril Ardo. Une infirmière soupçonnée d'avoir pratiqué des injections anti-rides de façon clandestine, interpellée par la police cette semaine à Paris. C'est une information France Inter. Un cabinet clandestin aurait même été découvert. Alors que les professionnels de la chirurgie esthétique lancent aujourd'hui l'alerte contre ces pratiques à risque. Toutes les explications dans le journal de 7h30.
Il est 7h10, le geste est fort à l'aune sans doute des attentes.
12 militants, dont l'eurodéputé Pierre Laroutourou, entament aujourd'hui une grève de la faim pour implorer les candidats de gauche à l'Union, les seuls selon eux conscients de l'urgence climatique et des solutions à la hauteur des enjeux. Et dans cette campagne qui mène la danse sur les réseaux sociaux, France Inter lance son baromètre en partenariat avec Visibrain pour prendre la température tous les mois des 15 candidats. Quelle vidéo a été la plus vue? Qui a gagné le plus de followers? Première tendance en décembre, Éric Zemmour, omniprésent, ça se confirme sur les réseaux sociaux, Noé Miller.
Un chiffre pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. 5,3 millions de publications mentionnant Éric Zemmour ont été postées sur les réseaux sociaux en décembre. C'est 4 fois plus que la deuxième candidate de notre classement, à savoir Valérie Pécresse. Éric Zemmour est porté par l'annonce de sa candidature, mais aussi par les opérations communication lancées par ses équipes très mobilisées. Résultat, c'est aussi Éric Zemmour qui gagne le plus d'abonnés. Lui encore qui a posté le plus de publications. Lui toujours qui fait le plus réagir. En moyenne, 3000 likes, commentaires ou partages pour chacun de ses posts. Mais attention, ce n'est pas forcément signe d'adhésion au candidat, car souvent, plus un message est clivant, plus il fait réagir. Deux autres candidats tirent leur épingle du jeu. Valérie Pécresse, dans une bonne dynamique depuis sa victoire au Congrès des Républicains, et Jean-Luc Mélenchon, porté par une communauté importante et par une communication millimétrée.
Et ce baromètre France Inter Visibrain est à retrouver en tableau et en graphique sur franceinter.fr. À l'étranger, 26 criminels armés tués lors des émeutes. C'est ce qu'affirment ce matin les autorités du Kazakhstan. Les troupes russes sont sur place, mises en garde cette nuit par les États-Unis contre toute violation des droits humains ou velléité de prise de contrôle des institutions du pays. Washington moqué par les Chinois, c'est ça aussi la diplomatie, utiliser l'ironie et les réseaux sociaux avec cette histoire savoureuse. L'agence de presse officielle chinoise a publié hier une vidéo, 4 minutes 35 en anglais, mettant en scène de faux agents secrets britanniques pour se moquer des critiques occidentales. Au service de Sa Majesté, un drôle de 007 dans le rôle-titre, Claude Guibal.
Son nom est Pond, James Pond, mais pas avec un B, mais un P, comme dans Pond, l'étang en anglais. Et c'est donc le nom de cet agent secret joué par cet acteur chinois dans un petit film diffusé hier sur Twitter par l'agence de presse Chine Nouvelle, intitulé « Mourir de rire peut attendre », la parodie montre deux agents britanniques, pas vraiment futés, cherchant obstinément à débusquer des tentatives d'espionnage chinoises avant de réaliser qu'elles venaient en fait des services secrets américains. Une petite arme virale, donc destinée à moquer les propos tenus en novembre par le chef des services secrets britanniques. Il avait déclaré que la priorité de ces services était de contrôler l'influence croissante de la Chine, la raison invoquée par la Grande-Bretagne pour interdire à l'opérateur chinois Huawei l'accès à la 5G par crainte d'espionnage. Le conflit avec la Chine s'enrichit donc d'une nouvelle arme, l'humour. Merci pour la publicité gratuite, a rétorqué fin sans rire le chef des services secrets britanniques.
James Pond, agent 0.07. And remember, our two countries are still the best of friends.
Voilà, le flegme anglais, arme diplomatique aussi.
Peut-être. Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, secret d'info, 30 ans d'affaires au Barcarès.